Cette nuit, lors de la veillée, nous avons entendu l'évangile de la résurrection selon saint Matthieu. Aujourd'hui, c'est une partie du récit de saint Jean que nous entendons. Certes, tous les évangélistes sont d'accord sur le principe de la résurrection, mais chacun donne un accent un peu particulier. Là, je dirais, l'association de Matthieu avec Jean est très intéressante. Matthieu insiste sur la dimension glorieuse, à travers notamment la mention du séisme, des gardes qui sont épouvantés, les femmes aussi sont apeurées, mais Jésus les rassure, l'ange d'abord les rassure. Le tremblement de terre, tandis que Jean, eh bien lui, insiste sur une autre dimension, non pas la dimension vraiment cataclysmique en quelque sorte, mais sur le signe du tombeau vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour Matthieu, le tremblement de terre, on voit bien, c'est visuel, ce que Matthieu nous dit, en même temps que très réel. Il nous dit d'abord que lorsque Jésus mourut sur la croix, le ciel s'obscurcit, le voile du temple se déchira en deux, c'est-à-dire comme si Dieu partait du temple. Et puis, ce tremblement de terre qui ouvrit les tombeaux. Et Matthieu précise que les corps de nombreux saints apparurent aux habitants de Jérusalem, non pas au moment de la Passion, non pas au moment de la mort de Jésus, mais après sa résurrection. Aucun saint ne pouvait précéder le Sauveur dans la résurrection, on le comprend bien. Mais déjà, dès la mort de Jésus, Matthieu annonce cette irruption de la lumière dans le monde. Et puis, l'autre tremblement de terre, c'est au moment de la résurrection. Donc, la mort, la résurrection. Au moment de la mort, Jésus descend aux enfers. Donc, la terre s'ouvre, en quelque sorte, pour laisser place à l'âme du Christ qui va descendre prêcher aux âmes des justes qui sont prisonniers des ténèbres. Et ensuite, il va les ramener avec lui. Mais lui est le premier, et c'est le sens de ce nouveau tremblement de terre au niveau du tombeau et de ses alentours, qui ouvre à nouveau, eh bien là c'est le tombeau du Christ qui est ouvert, qui ouvre la porte des enfers sur le monde des vivants. C'est Jésus qui ouvre cette porte, qui la défonce en quelque sorte, si j'ose dire. Le tremblement de terre, vous voyez, c'est le séisme, c'est le symbole de l'Esprit Saint dans l'Écriture, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. La descente aux enfers, c'est une nécessité de la vie spirituelle. Nous devons accompagner le Christ, eh bien, en descendant nous-mêmes dans ces ténèbres. Alors on ne descend pas par la mort physique, on ne descend pas de cette façon-là, mais par la méditation, en accompagnant le Seigneur dans ce mystère du samedi saint que nous avons vécu hier, et dans ce mystère que nous célébrons aujourd'hui, mystère de la lumière qui fait à nouveau irruption dans le monde. Oui, il faut d'abord descendre dans la connaissance du mal pour pouvoir désirer, pour pouvoir crier vers le bien. C'est, l'homme est fait ainsi. Le bien nous lasse et nous ennuie à force. C'est très curieux. Il faut l'avoir perdu pour comprendre combien il constituait la vie en elle-même. Le bien, c'est quelque chose de fragile qu'il faut protéger. Et c'est quelque chose qui, en retour, nous fait vivre et nous protège. Le séisme, c'est le symbole de l'ouverture du croyant, de son cœur. Le cœur est ouvert par le soldat avec la lance. C'est le cœur de Jésus qui est ouvert sur la croix. Mais nous devons imiter notre maître et laisser, eh bien, l'Esprit Saint ouvrir nos cœurs. Le mouvement de descente, c'est le mouvement, comme je le dis, de méditation du mal, de conversion. C'était le baptême d'eau de Jean-Baptiste. Il faut, ça consiste en quoi, ce mouvement-là qui nous est imposé par Dieu lui-même, eh bien, à vider notre cœur de tout ce qui s'oppose à Dieu. C'est la phase purgative, de purification. Et puis le mouvement de remonter à partir des ténèbres jusqu'à la lumière, Eh bien ça, c'est vraiment le fait de recevoir l'Esprit Saint. Dans la nuit de Pâques, on a évoqué le passage de la mer Rouge où les Hébreux passèrent la mer à pied sec, en laissant derrière eux les Égyptiens qui furent submergés par les eaux et dont les cadavres s'amoncelèrent sur les rivages. C'est l'image du baptême, c'est l'image de ce que nous vivons dans la vie spirituelle, non seulement au moment du baptême, mais toute notre vie. Nous passons et nous sommes obligés de passer au milieu des eaux, dans l'obscurité, dans les ténèbres, mais Jésus est là et il écarte les flots pour que nous ne soyons pas engloutis. Et les démons qui sont accrochés à nous, qui nous suivent, qui nous pressent, sous la forme des Égyptiens poursuivant les Hébreux, eh bien, eux, en revanche, sont retenus par l'eau et sont anéantis par elle. C'est la grâce de Dieu, c'est ça le séisme en général. Vous voyez, ce double mouvement de la vie spirituelle, nous oscillons sans cesse entre connaissance de Dieu, connaissance lumineuse, et connaissance de l'absence de Dieu, connaissance ténébreuse, le mal. Nous ne pouvons pas échapper à la méditation du mal, c'est le sens de la passion du Christ, mais c'est en vue de découvrir et de désirer, d'apprendre à désirer la lumière, d'apprendre à désirer le bien. Voilà ce que Matthieu dessine sous nos yeux. Saint Jean, lui, insiste sur le mystère du tombeau vide. La résurrection ne commence pas par la manifestation du Christ, il aurait pu, mais ça, d'abord ça se fait doucement, vous voyez. Les saintes femmes découvrent un tombeau qui est vide. Là c'est Marie-Madeleine. Elle va prévenir les disciples arrivent et ils trouvent la même chose. Un tombeau ouvert, mais un tombeau vide. Le signe du tombeau vide est un signe ambigu. Elle invite à chercher Dieu. À la fois Dieu est absent et Dieu est présent. Il n'est pas absent au sens absolu. Il n'est pas absent comme il est absent de l'enfer. Là où tout est pure ténèbre, pure dureté de cœur, pure haine, pure froideur. Non, le tombeau vide n'est pas ainsi. Le tombeau vide est un signe d'espérance, mais il n'est pas clair, il est ambigu. Dieu est à la fois absent et à la fois il sous-entend qu'il est présent quelque part. C'est très important parce que notre vie spirituelle est gouvernée elle aussi, non seulement par le séisme, mais par cette ambiguïté du tombeau vide. Les anges sont là pour guider les croyants dans leur méditation, dans leur vie ordinaire. La vie ordinaire, c'est la Galilée. Matthieu disait, l'ange chez Matthieu dit, allez en Galilée, c'est là qu'il vous attend. Et Jésus qui apparaît aux saintes femmes dit, rendez-vous en Galilée, c'est là que vous me verrez. La Galilée, c'est la vie ordinaire, la vie quotidienne. Elle s'oppose symboliquement à la Judée, c'est-à-dire à Jérusalem, qui est la vie religieuse. Mais les grandes fêtes ou les prières, où Dieu se rend vraiment présent, sous l'image, sous la figure du temple, là, dans l'Ancien Testament. Les anges nous guident en chemin dans la vie quotidienne. C'est ce que ça veut dire, ils sont là pour ça. Le tombeau est vide, mais les anges sont là. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons des défenseurs, des guides, qui sont envoyés par le Seigneur lui-même. Et dans notre vie quotidienne, ils sont là. Ils sont là pour nous éperonner, pour nous inviter à chercher Dieu. Car le tombeau vide est une invitation à chercher Dieu. Dieu aime à voir les fidèles le rechercher. Parce que dans cette recherche, c'est toute l'expression et la force de notre cœur, du désir de notre cœur qui s'exprime. Cette ambiguïté n'est que temporaire. On a entendu dans la veillée, que Jésus apparaît aussitôt aux saintes femmes. L'ange eh bien, leur dit de regarder le tombeau vide, il les envoie vers les disciples, mais en chemin, le Seigneur ne résiste pas, il se montre. De même pour Marie-Madeleine, chez saint Jean. Certes, elle se heurte au tombeau vide, avec toute la douleur que ça suscite dans son cœur. Les disciples viennent voir, c'est ce que nous avons lu, ils restent perplexes, sauf Jean qui parvient à croire à ce moment-là que le Christ est ressuscité. Il ne le voit pas, mais il croit, il voit autrement, il vit et il crut, mais il n'a pas vu Jésus en lui-même, il n'a pas vu le ressuscité, il a compris, il a vu en esprit, il a contemplé, voilà ce que ça signifie. C'est notre prière de chaque jour. Mais Marie-Madeleine, juste après ce passage, eh bien, verra le Seigneur, dans un passage qui est vraiment savoureux au possible, où Jésus l'appellera par son nom, où elle le reconnaîtra, et tentera même de le retenir. Mais elle acceptera de devenir disciple au même titre que les autres, et eh bien, de partir annoncer qu'elle a vu le ressuscité. Oui, la Galilée, c'est notre vie quotidienne. Jésus inaugure dès le récit de la résurrection, ce qu'il va faire pendant 40 jours. Il apparaît, il disparaît. Le tombeau vide, c'est ça. C'est ce mode de présence que nous vivons dans la foi désormais. C'est le début de ce rythme des 40 jours qui est le rythme qui est le nôtre. Tantôt, la plupart du temps, le Seigneur se cache, nous savons qu'il est là par la foi, mais il se cache. Et puis, de temps en temps, il se manifeste. Alors notre cœur fond littéralement en nous-mêmes, et nous voudrions à chaque fois le retenir. Mais à chaque fois, il s'échappe, parce que ce qu'il désire de nous, ce n'est pas encore de demeurer pour toujours, éternellement, en nous. Ce qu'il veut pour l'instant, c'est que nous ayons le sentiment seulement, de le voir échapper à notre prise et de susciter en nous un désir renouvelé, un désir toujours plus grand. L'autre thème, le grand thème de la résurrection, c'est la vie et c'est la beauté du ressuscité. La vie exprime vraiment la beauté de ce Dieu ressuscité d'entre les morts. La beauté de la vie, ne peut être protégée que par Dieu. Vous voyez, le temps est clément, là, et tout lumineux aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, et ça nous invite à voir la beauté de la création, la beauté du vivant, mais en même temps toute sa fragilité. Et ce vivant, alors au sens spirituel maintenant, pas seulement organique, mais au sens spirituel, des âmes, nous les voyons qui sont toutes belles au moment de leur naissance, dans leur enfance, et puis peu à peu confrontées à ce mystère du mal, devenir sous l'effet du péché, un peu ténébreuses, voire beaucoup dans certains cas. Pourtant, personne n'est déterminé, au début de sa vie, à devenir ténébreux. Personne. Tous les enfants sont lumineux. La liberté humaine, la perdition de Judas l'exprime bien, fait que la vie est la vie éternelle, c'est-à-dire celle qui est en Dieu. Donc si on s'écarte de Dieu, on s'écarte de la vie. L'enfer, c'est une subsistance, une sorte de survie, mais ce n'est pas la vie, puisque Dieu n'est pas là. La vie présente nous apprend à désirer le ressuscité. Comment le désire-t-on ? En nous laissant saisir par cette beauté de la vie qui est en Dieu. La beauté, c'est quelque chose qui nous dépasse tous, ça nous fascine. On le voit tout le temps. Les personnes qui sont vraiment très belles, ont une sorte de pouvoir invisible sur les autres. Et pourquoi ? Ça renvoie à cette beauté spirituelle de Dieu lui-même. Quand on contemple Dieu, quand on contemple la vie qui est en lui, qu'on se met à la désirer, eh bien on est dans cette fascination merveilleuse qui est celle de l'amour. Oui, la beauté est celle du ressuscité, et c'est cette beauté-là que l'Esprit Saint nous propose d'obtenir en cherchant le Seigneur. Alors, soyons comme Marie-Madeleine, soyons comme des saintes femmes, repartons dans la paix et dans la joie.